Amen. Alléluia. Nous voulons ouvrir la parole du Seigneur dans le psaume 48, que nous lirons ensemble. Psaume 48, à partir du verset 1er. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Et nous relisons ce verset 9. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, Dieu la fera subsister à toujours. Voilà. Il y a une petite variante de traduction qu'on peut faire. Hein, quand il est marqué « Dieu la fera subsister à toujours », on peut aussi traduire « le fera subsister à toujours ». Parce que ce n'est pas très clair hein, dans le texte original. Ça peut être « Dieu la fera subsister à toujours », donc ça c'est la ville de l'Éternel des armées, la ville de notre Dieu. Ou ça peut être aussi Dieu le fera subsister à toujours, c'est-à-dire ce que nous avions entendu dire et que nous avons vu. Alors, c'est effectivement cette dernière expression qui nous intéresse surtout. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Et voilà, je dirais, une affirmation qui est rarement vraie dans le monde, hein, parce que dans beaucoup d'endroits, nous voyons ce que nous n'avions pas entendu, et ce que nous avons entendu, nous ne le voyons pas. Hein, combien qui sont partis sur des choses qu'ils ont entendues avec crédulité. Par exemple, ils sont partis pour faire fortune parce qu'ils ont entendu dire ceci et entendu dire cela. Ils avaient des rêves de gloire, des rêves de richesse. Mais voilà, à la fin, ils n'en ont trouvé que déception et que misère. Et combien rarement nous entendons dans ce monde cette bonne nouvelle, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu. Mais pardon. Mais lorsque, comme dit notre verset, lorsque vous entrez dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu, c'est tout différent. Ce qu'on raconte est vrai. Et je dirais même que la réalité est plus grande que les rapports qu'on a pu en faire. Et là, comme la reine de Séba, nous pouvons nous écrier « on ne m'en a pas dit la moitié ». Lorsque nous parlons des privilèges de l'Église du Seigneur, sur la terre même, il est impossible d'exagérer. Lorsqu'il est dit à propos du Seigneur, « Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est extraordinaire ce qu'il y a derrière cela. « Voyez quelle bénédiction, voyez quelle richesse le Seigneur répand sur ses élus. Voyez combien ils sont lavés par son sang. Voyez comment ils sont ressuscités par sa vie. Combien ils sont honorés par les anges du ciel à la droite du Père. Voyez les exaucements, voyez aux prières, voyez les miracles, voyez les guérisons, voyez les prodiges opérés. Et dans ce domaine-là, on ne peut pas parler de l'Église du Seigneur d'une façon trop optimiste ou d'une façon trop positive. Et si on se met à parler d'une autre cité, celle que nous attendons, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, la cité des vivants qui brille de toute sa splendeur sur les hauteurs du ciel, là encore, les mots manquent pour pouvoir décrire cela. Et je ne doute pas que nous arriverons dans ces lieux glorieux et que nous foulerons ces rues pavées d'or et que nous porterons nos couronnes d'immortalité. Alors effectivement, nous ne dirons pas seulement ce que nous avons entendu dire, nous l'avons vu, mais nous serons éperdus de surprise, éperdus d'admiration devant la grandeur de la révélation de l'amour de Dieu. Vous savez, il y a toujours une parole, moi, qui me fait un bien considérable chaque fois que je la lis dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 3, ou chaque fois que je me la rappelle, lorsque le Seigneur dit « Je vais vous préparer une place ». Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je n'enverrai pas un ange. Je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Vous voyez comme le Seigneur prend soin de dire que c'est lui-même qui va s'occuper de cette affaire d'un bout à l'autre. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, à la fin, de ce dernier livre, et à la fin de l'Apocalypse aussi, j'ai décrit dans les grandes lignes, très grandes lignes, cette merveilleuse cité, cette cité de gloire, cette cité de communion éternelle et parfaite avec Christ et les uns avec les autres. Et il nous a dit que cette cité va descendre du ciel d'auprès de Dieu, ce sera sur la nouvelle terre, bien sûr, à ce moment-là, ce sera une cité entièrement sainte et entièrement mise à part pour Dieu, une cité où le Seigneur demeurera avec nous, une cité de parfaite consolation, de parfaite préservation, de parfait bonheur assuré par le Seigneur lui-même, une cité de lumière, de transparence, une cité de gloire, une cité de parfaite protection, une cité pénétrée de la parole de Dieu, fondée sur la parole de Dieu, une cité immensément glorieuse où il y aura autant de merveilleuses places préparées par le Seigneur pour les siens, pour que tous soient accueillis et que tous soient à l'aise, si je peux dire, hein, tout que tous soient vraiment très bien. Donc une cité d'un prix immense, une cité d'une beauté, d'une harmonie inconnue et inconcevable ici-bas. Une cité éclairée continuellement par la gloire de Dieu et par la lumière parfaite de Christ. Une cité qui sera pour qui ? Elle sera pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont graciés, consacrés, sanctifiés, régénérés, qui ont été enlevés, transfigurés, ressuscités, rendus semblables aux anges, rendus parfaits, et elle sera pour eux seuls, est-il marqué dans le verset 27 de ce chapitre 21, une cité foisonnante de vie céleste, de vie divine, le fleuve de la vie qui coule là, pas un ruisseau, hein, le fleuve qui sort du trône de Dieu, l'arbre de la vie, pas à un exemplaire, à de nombreux exemplaires, c'est marqué qu'il y en a de chaque côté du fleuve de la vie. Donc, un fruit de vie continuellement produit, un fruit de vie abondant, même les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations qui seront à l'extérieur de la ville, nous est-il expliqué. Hein, donc, une cité de pleine bénédiction et une cité que de bénédiction, une cité de la proximité du trône de Dieu et de son règne par Christ, de communion étroite et parfaite avec lui, nous serons toujours plongés dans son amour, où nous régnerons avec lui pour l'éternité. Et ce qui est bien précisé tout à la fin, chapitre 22, verset 6, ces paroles sont certaines et véritables. Ce n'est pas juste des images, ce n'est pas juste des symboles, ce sont des réalités. Ça, c'est une réalité, le bois qu'est là, voyez. La chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est une réalité. Mais ces réalités que nous connaissons ici-bas ne sont rien à côté de ces réalités-là, parce que tout ça, ça disparaîtra, ça retournera au néant. Tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce que vous voyez autour de vous, tout retournera au néant, anéanti complètement, ça n'existera même plus, il n'y aura même plus une trace de cela. Mais les choses dont nous parlons là, des choses de la gloire, elles sont là et elles resteront là pour toujours. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. Et ça, c'est quelque chose d'admirable qui se prépare. Et cette parole est toujours vraie pour l'Église de Dieu, comme pour ces choses-là. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et je dirais que cette pensée va être aussi la ligne directrice de la suite de notre prédication d'aujourd'hui. Donc, notre première observation concernant tout cela, ce texte, eh bien, ce sera la suivante. Nous aurons trois chapitres, Dieu voulant. Déjà, en premier, il est très, très important d'écouter de véritables témoins, d'authentiques témoins. Lorsqu'on dit « ce que nous avons entendu », on peut entendre toutes sortes de choses. Mais là, il faut vraiment que ce qu'on a entendu soit digne de foi. Nous sommes bien d'accord, hein, c'est bien cela qu'il est évident. Parce que si nous écoutons de faux témoins, Et plus nous croirons dans ces faux témoins, plus ce sera mauvais pour nous, parce que ce ne sera pas de la foi, ce ne sera pas de la crédulité, et puis ce sera de la crédulité, pardon, mais un temps viendra où il y aura un triste réveil de ces rêves trompeurs. Donc, il est très important que vous tous qui êtes là, et moi aussi, nous écoutions la parole de Dieu et la vérité qui y est contenue, afin qu'au bout du voyage, lorsque nous entrerons dans cette éternité, nous puissions dire, eh bien, nous remercions le Seigneur pour l'évangile que nous avons entendu, car ce que nous avons écouté de nos oreilles, nous avons vraiment pu le vérifier dans notre vie, et maintenant, nous en réalisons le plein accomplissement. Amen. Alors, premier témoin, donc, avons-nous dit, lire ou écouter la parole de Dieu. Ces Israélites qui chantaient ce psaume 48, mais ils avaient entendu parler de Jérusalem et de son temple, hein, puisque vous avez vu que c'était le sujet du psaume 48. Donc, ils avaient entendu parler de Dieu aussi, de la façon dont il défendait sa cité choisie, et comment en avait-il entendu parler ? Eh bien, en lisant déjà et en écoutant la lecture de la parole de Dieu, ils avaient les 5 livres de Moïse et d'autres écrits, et dans ces livres, ils ont lu les choses merveilleuses que le Seigneur a faites pour son peuple. Ils se sont souvenus comment le Seigneur les a tirés de la maison de servitude en Égypte, à main forte et à bras étendus. Ils ont lu le récit de la façon merveilleuse dont Dieu a pris soin de son peuple dans le désert. Ils ont vu les victoires sur des ennemis comme Sion, roi de Hesbon, Og, roi de Bazan, victoire contre Amalek dans le désert, après les Égyptiens. Ils ont lu avec admiration la conquête de Canaan par Josué, les défaites des tyrans par Gédéon, par Barak, par Jephté. Ils ont vu ce que Dieu a accompli par son serviteur David et par d'autres qui ont cru en lui dans ces temps anciens. Et tout ceci avait augmenté leur confiance en Dieu. Et maintenant, il venait juste d'arriver que pendant que Josaphat était roi, la cité sainte avait été assiégée par des Moabites, les Édomites et les Ammonites qui s'étaient coalisés, qui s'étaient alliés pour cela. Et une fois de plus, le Seigneur avait découvert son bras et il avait donné une glorieuse victoire à Juda, sans même que ce peuple ait eu apporté un seul coup, ses adversaires, remplis de jalousie, eh bien, c'était tombé les uns sur les autres, ils s'étaient exécutés les uns les autres, et lorsque les hommes de Juda ont vu cela, ils sont écriés, la parole de Dieu est vraie. Hein. Dieu a accompli des miracles sous nos yeux. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Amen. Alors, eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, soyons attentifs à ce que le livre raconte, ce que le livre révèle. Et il a été maintenant augmenté, élargi, pour notre plus grand bien, pour notre plus grande édification. Nous avons entre nos mains maintenant une Bible complète que n'avait pas. Alors, eh bien, portons toute notre attention aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes qui ont parlé, qui ont écrit au nom du Seigneur, car alors vous entendrez des vérités qui, si vous pouvez les vérifier par l'expérience, eh bien vous pourrez vous écrire aussi joyeusement « Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Amen. » Voici une petite anecdote. Dans le train, un voyageur lisait la Bible tout en consultant de temps en temps un indicateur de chemin de fer placé sur ses genoux. Et voilà qu'un homme prend place dans le compartiment, lors d'un arrêt, il remarque la Bible et il dit « Je pense, monsieur, que votre vieux livre a fini son temps. » L'autre dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Oh, ben tout ça, c'est du folklore, c'est des traditions, c'est de l'histoire ancienne, c'est des légendes. » « Eh bien, reprend le lecteur de la Bible, « Voyez-vous, au moment où j'ai pris mon billet, j'ai acheté cet indicateur. Je ne sais pas qui l'a composé, ni quelles sont ses sources. » Mais je l'ai vérifié depuis le départ et j'ai remarqué qu'il indique exactement toutes les gares. S'il a été exact jusqu'à présent, je peux lui faire confiance pour mon arrivée au terminus. Hein ? De la même façon, ajouta-t-il, ce vieux livre a été mis à l'épreuve par des millions de personnes. Je le connais moi-même depuis mon enfance. Toutes ces prophéties se sont réalisées, à l'exception de celles qui concernent les temps à venir encore. Hein ? Comment penserait-on que le reste de ce livre est erroné ? Ce livre, la Bible, c'est l'indicateur du voyage de la vie des hommes. Et oui, c'est vrai, c'est logique, hein, on peut comprendre cela. Et pour peu que vous lisiez la Bible avec attention, eh bien vous allez découvrir à votre tour que ce vieux livre est vraiment d'une actualité brûlante. Tout ce que le début de la Bible a dit de Christ s'est réalisé dans la vie de la mort de Jésus comme dans sa résurrection. Les évangiles, les autres écrits du Nouveau Testament en témoignent. Et si vous voulez d'autres preuves, le retour des Juifs en Terre Sainte, la renaissance de l'État d'Israël, la réunification de Jérusalem, la Bible l'avait annoncé. Les tremblements de terre et les phénomènes surprenants qui bouleversent notre planète, la Bible en parle comme de signes annonciateurs des temps de la fin. La prolifération des sectes, des fausses doctrines, mais Jésus l'a prédite. L'accroissement du mal sous toutes ses formes, les temps difficiles que nous vivons, la guerre froide, la guerre des blocs antagonistes, la proclamation de l'Évangile en tout lieu sur la terre, mais vous trouvez tout ça dans la Bible, annoncé, prédit, prophétisé. Et elle dit tant et tant d'autres choses encore. Et elle dit entre autres aussi que Jésus est venu pour sauver les hommes pécheurs qui se repentent de leurs fautes, qui croient en sa mort expiatoire sur la croix. Elle atteste qu'il est ressuscité, qu'il veut transformer leur vie, à condition bien sûr qu'ils le veuillent, à condition qu'ils le désirent. Elle affirme que Dieu répond à la prière des croyants qui l'implorent avec une foi ferme. Et la question, c'est à votre portée, à notre portée à tous, si nous le voulons, évidemment. Hein, si nous le voulons, voilà. Donc, je continue. Après avoir écouté la parole de Dieu, vous avez écouté aussi les serviteurs de Dieu. Ça aussi, c'était quelque chose. Les prêtres, ceux des membres de la tribu de Lévi, lorsqu'ils n'étaient pas pris par l'entretien du temple, devaient enseigner la parole de Dieu et enseigner le peuple. Il est dit au sujet de la tribu de Lévi, « Ils enseigneront tes jugements à Jacob et ta loi à Israël. » Vous aviez aussi des prophètes qui marchaient à travers le pays, déclarant la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et Dieu ne désirait pas qu'une seule des paroles de ses serviteurs tombe à terre. Et c'est pour ça que c'est important que vous écoutiez la vérité qui est annoncée par ceux qui ont été envoyés par Dieu. Lorsqu'un homme dit sa propre opinion, je dirais de son propre esprit, ben ça peut être vrai ou non, hein, on a le droit certainement de discuter la chose, on peut la critiquer. Mais celui qui dit « ainsi parle l'Éternel » et qui le fait légitimement, celui-là se place à un autre niveau. Hein. Donc, pourquoi ? Parce qu'il va parler avec foi, avec autorité, et non pas comme les scribes. Et la conscience dans le cœur de l'homme va faire écho à cette voix de la vérité divine et va parler avec puissance. Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter les messagers de Dieu pour que aussi nous puissions dire ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la cité de notre Dieu. Amen. Alors bien sûr, ça ne nous dispense pas de vérifier qu'il s'agit bien d'envoyer de Dieu et de confronter leur message avec ce que nous dit l'Écriture sainte. Hein. Et plus que jamais aujourd'hui, avec la multiplicité de ceux qui se mettent en avant, il faut être vigilant et sur nos gardes à ce sujet. Et puis, troisième chose qu'ils ont écouté, ils ont écouté aussi le témoignage de ceux qui ont été là-bas, de ceux qui ont été dans cette cité-là. Ils avaient entendu parler du temple, de ce qui était magnifique là. Il y avait à l'entrée du bâtiment, il y a deux grandes colonnes en bronze poli. Dans l'une s'appelait Jachin et l'autre s'appelait Boaz. C'était quelque chose, ça valait le coup d'être vu. Hein. Ils avaient entendu parler du grand autel avec le sacrifice du matin et du soir, et des prêtres avec leurs habits blancs qui servaient à l'autel, et du grand prêtre, du souverain sacrificateur, avec ses ornements de gloire, de beauté. Et la bénédiction qu'il prononçait sur toute l'assemblée de ceux qui étaient là, et dans les maisons de la campagne, dans les collines lointaines, ils avaient entendu parler de ces choses, et ils en avaient entendu un rapport véritable, de sorte que lorsqu'ils venaient eux-mêmes à la Sainte Cité, et que leurs pieds étaient à la porte de Jérusalem, alors leur cœur battait plus vite, et ils se disaient en eux-mêmes, nous n'avons pas entendu simplement des fables bien arrangées et exagérées. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et de la même façon, mes frères et sœurs, mes amis, eh bien, choisissez-vous des amis. Choisissons nos amis. Associons-nous de façon à en retirer un bénéfice éternel. Ne choisissez pas n'importe quels amis. C'est important ça. Hein. Donc, que les amis de Dieu soient nos amis. Parlez avec ceux qui parlent souvent à Dieu et ceux qui parlent aussi de Dieu. Cultivez l'amitié de ceux qui peuvent vous informer par leur expérience si ces choses sont vraies. Hein, donc, celui qui marche avec des sages devient sage, est-il écrit dans le livre des Proverbes. Celui qui parle beaucoup avec des chrétiens qui ont fait de véritables expériences avec le Seigneur, eh bien, il va acquérir aussi une grande assurance dans les choses de Dieu. Il est très, très important que nous puissions recevoir le témoignage de ceux qui sont anciens et en même temps fidèles, et puis, et cela aussi, eh bien, pour que nous puissions dire ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Vous savez, je réfléchissais encore lorsque je travaillais à cette prédication, lorsque je regardais un petit peu en arrière dans ma propre vie, c'est ce que je connais le mieux pour en parler, et puis j'ai réalisé que j'avais de ce point de vue-là vraiment de grands privilèges, parce que j'ai eu contact et même communion avec de véritables hommes de Dieu, avec lesquels j'ai pu parler, avec que j'ai pu écouter, auxquels j'ai pu me confier, et ça m'a été extrêmement profitable, et plus le temps passe, et plus aujourd'hui je me rends compte, hein, je pourrais donner quelques noms, que vous ne connaissez pas, mais pour vous montrer que c'est bien dans mon souvenir, voici Nicolas Kessely, grâce auquel j'ai entendu la prédication de l'Évangile pour la première fois, pour me tourner réellement vers le Seigneur. Et puis voici Daniel Herman, qui m'a encouragé à l'étude systématique de la parole de Dieu, à l'attachement à la parole de Dieu, à la prière. Et puis voici Dimitri Kalioujoglou, qui m'a donné le goût du service du Seigneur pour amener des âmes à Christ, spécialement des jeunes dans cette période-là. Et puis voici Jean-Raymond Couleru, qui a attiré mon attention sur le baptême d'eau, sur la parole de Dieu, et qui m'a rappelé, montré l'importance de l'écoute et du travail suivi, surtout dans la cure d'âme. Et puis voici évidemment le frère Canel. Frère Canel avec, je dirais, la mise en route et le suivi du ministère, hein, du service pour lui, l'accompagnement, la guidance dans le travail d'église, le grand travail des missions, hein, tout ça avec le frère Canel, l'importance de l'œuvre de Dieu, et puis surtout, quel exemple de support il a été, hein, pour moi aussi, et je pourrais certainement citer encore d'autres bénédictions, encore d'autres noms pour ce qui me concerne, un titre un petit peu moindre, mais quand même tous précieux en leur temps. Mais je crois que simplement pour insister sur le fait que, vous savez, à un moment, il faut quand même que nous puissions faire confiance à des hommes. Il y a certains qui vont dire, ah ben moi, je ne veux faire confiance qu'à Dieu. Vous savez, je méfie un peu de ce genre de discours. Pourquoi ? Parce que ça peut être un argument pour certains, qui dissimulent le désir de n'en faire qu'à leur tête, hein, voilà. Ou bien alors peut-être, parce qu'ils veulent se soumettre à personne, hein, d'humain, hein, sur cette terre, en fait, ou peut-être c'est une réelle faiblesse, peut-être un réel problème de contact personnel, je ne sais pas. Enfin, bon, on est bien d'accord, il faut nous soumettre à Dieu et à sa parole avant tout, hein, c'est une évidence, hein. Mais il n'en est pas moins vrai que Dieu continue à utiliser des hommes et des femmes pardon, pour nous bénir et pour nous parler, en particulier des ministères. Rappelez-vous, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu as suivi de près, dit-il. Hein » C'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11. Et encore un petit peu avant, dans le même livre, chapitre 2, verset 2, il lui disait, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et nous voyons bien, au travers de ce que Paul dit, de sa relation avec Timothée, qu'une relation de confiance, c'est quand même quelque chose de primordial pour pouvoir tirer le maximum de bénéfices de ce lien que Dieu veut entre les hommes de Dieu expérimentés et ceux qui ont à cœur de se former pour servir Dieu, de grandir dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Et c'est un puissant et précieux moyen de croissance et de bénédiction. Amen. Amen. Alors, si vous savez, certains aujourd'hui sont prêts à écouter n'importe quoi, hein, donc bon, mauvais ou indifférent. Vous savez, je crois que d'écouter n'importe quoi, ça finit toujours par ne plus écouter du tout. Hein, c'est quand même comme ça que ça se passe. Hein. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui, de ce point de vue-là, est souvent utilisé et mal compris. Et ce texte, c'est celui qui dit « éprouvez toutes choses ». Écoutez, si vraiment dans votre vie, vous voulez éprouver toutes choses, ça ne va pas être triste. Avant de commencer par votre âme, si vous voulez faire ça, je vous conseille de commencer par votre corps. Voilà. Alors vous allez commencer par éprouver tous les médicaments qui existent, les uns après les autres. Hein. Et après vous allez passer chez le chimiste, vous allez éprouver tous les produits chimiques qui existent. Voilà. Et puis après, il va commencer à être temps peut-être d'éprouver les serviteurs de Dieu et les différentes doctrines de cette triste époque où nous vivons. Et si vous avez survécu aux drogues et aux poisons, vous ne survivrez certainement pas aux mauvaises doctrines. Hein, donc, les mauvaises doctrines ne peuvent être éprouvées. et nous n'avons pas besoin de faire la tentative de cela. Il n'y a que la vérité qui peut être éprouvée, mes amis. Il n'y a que la vérité qui peut être éprouvée. Et ce texte ne signifie pas essayer n'importe quoi, mais il signifie bien plutôt ne recevez rien qui n'ait été prouvé comme étant bon et vrai. Hein, c'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas imiter les Athéniens qui, dans le livre des Actes, ne passaient leur temps qu'à colporter des nouvelles et à chercher des nouveautés. Hein. Prenons soin de ce que le Seigneur nous a fait entendre pour que nous puissions dire ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Amen. Voilà, ça concerne ceux que nous devons écouter. Et puis notre point suivant, maintenant, c'est la bonne façon d'écouter. La bonne façon d'écouter et d'entendre, c'est ça qui conduit à la vue. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Tout le monde ici ne peut pas forcément dire ces paroles-là. Tout le monde ne peut pas forcément dire ça. Certains d'entre nous ont entendu, et entendu beaucoup peut-être, mais n'ont encore rien vu. Ah oui, c'est... voilà. Donc, chers amis, vous n'êtes pas seulement invités à écouter l'Évangile, mais le Seigneur Jésus nous dit, comme à ses premiers disciples, il dit « Venez et voyez ». Il est écrit encore « Sentez et voyez combien le Seigneur est bon ». Ça, c'est primordial. Hein? Donc, vous êtes invité à venir voir par vous-même si ces choses sont vraies ou non. Mais vous demandez, mais comment celui qui écoute l'Évangile peut-il devenir celui qui voit? Comment celui qui écoute peut-il devenir celui qui voit? Bien déjà, en examinant les faits qui lui sont exposés pour voir si ces faits sont vrais ou non. L'Écriture dit bien des choses. L'Écriture nous dit que notre cœur est trompeur. Voilà. Eh bien, regardez, examinez votre cœur pour voir s'il en est ainsi. Elle nous dit encore que l'inclination naturelle de l'homme, c'est le péché. Alors, étudiez-vous vous-même et considérez si c'est le cas. Elle nous dit encore que la nature humaine est incapable de faire le bien total, le bien véritable et sans péché. Alors, examinez-la encore sérieusement votre vie pour voir si ça confirme cette affirmation-là. Et puis, vous savez, il y a comme ça bien des choses que la Bible dit de vous-même et que vous pouvez considérer, que vous pouvez examiner, vous pouvez observer dans les détails et vous pourrez voir alors combien la parole de Dieu nous connaît à fond et cela nous sera très utile de toutes sortes de façons. Et puis, nous voyons aussi que ce que nous entendons quand nous obéissons aux commandements, alors, et que nous commençons à recevoir les bénédictions promises à ceux qui obéissent. Par exemple, nous sommes invités à confesser nos péchés. Et oui, c'est vrai. Et puis, j'entendais encore une sœur, cette semaine, qui me disait qu'elle avait fait cette expérience, elle avait commencé à confesser ses péchés, et puis elle a vu qu'il y a d'autres péchés qui arrivaient par derrière dans son esprit, et elle les a confessés aussi, et puis d'autres encore qui arrivaient derrière. Et moi, ça m'a rappelé exactement mon cas, lorsque j'ai vraiment fait une expérience de conviction de péché. Alors j'avais commencé à faire une liste, j'avais un papier pour faire une liste, et quand je suis arrivé au bas de la liste, je pensais que j'en aurais assez avec un papier, mais j'ai retourné le papier parce qu'il y en a d'autres qui venaient, et j'ai rempli plusieurs papiers comme ça, les uns après les autres. Et j'ai demandé pardon au Seigneur à chaque fois, au fur et à mesure. Et j'ai bien vu que la réalité, c'est cela. C'est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Hein? Un autre exemple, lorsque le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors peut-être que vous l'avez entendu bien des fois, mais maintenant venez et voyez pour vous-même si un tel repos existe. Obéissez au commandement pour que vous puissiez recevoir la promesse qui en dépend, qui y est accrochée. Amen. Et je dirais que nous voyons aussi ce que nous entendons quand nous entrons dans la vie nouvelle et que nous en recevons les bénédictions. Beaucoup d'entre nous, quand ils ont reçu le Seigneur, ceux qui ont reçu le Seigneur vraiment, ils peuvent témoigner qu'ils sont quelque part entrés dans un autre monde. Il y a un nouveau monde, parce qu'il y a des choses qui n'étaient rien pour eux, il y a quelque temps, eh bien c'est maintenant, ces choses sont tout pour eux maintenant. Hein. Vous savez, pour un sourd, il n'y a pas de bruit. Pour un aveugle, il n'y a pas de lumière. De la même façon, pour nous, eh bien, il n'y avait pas de choses spirituelles. Il n'y avait pas les choses de la gloire de Dieu, ça n'existait pas. Mais maintenant que nous avons reçu Jésus, que nous avons cru en lui, voilà que nous sommes quelque part passés dans un autre univers. C'est un autre monde et nous possédons maintenant une vie qui est autant au-dessus de la vie que nous avions auparavant que, par exemple, la vie mentale de l'homme est au-dessus de celle de l'animal. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, hein. Et nous savons qu'il y a une vie céleste et nous la possédons par la grâce de Dieu et par sa puissance. Eh bien, nous voyons des choses, nous voyons des quantités de choses que l'homme habituel ne peut même pas imaginer. Et combien je souhaite de tout cœur que vous qui entendez l'Évangile, vous puissiez voir des vérités afin que vous puissiez dire avec le psalmiste ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Amen. Amen. Et passons au troisième grand point maintenant, qui est le suivant. Ce que nous voyons confirme merveilleusement la vérité de ce que nous entendons. Ce que nous voyons confirme merveilleusement la vérité de ce que nous entendons. Et vous savez, nous sommes tenus de croire au Seigneur, même si nous ne voyons rien, si nous ne voyons pas. Hein. C'est-à-dire que ce que le Seigneur dit devrait être suffisant si nous le craignons comme il faudrait. Mais malgré tout, ça nous aide beaucoup lorsque nous avons cru au témoignage de Dieu et qu'il nous fait la grâce de voir que ce que nous avons cru est vrai. Hein, ça nous aide beaucoup. Alors, voyons ensemble comment l'expérience d'un homme de foi confirme cette vérité qu'il a entendue. Déjà, lorsqu'on découvre que ce que la Bible dit concernant notre ruine, concernant notre péché, est véridique, que c'est vrai, hein. Beaucoup d'entre nous n'ont pas seulement entendu, mais ont ressenti le mauvais résultat du péché sur leur âme et sur leur vie. Lorsque le Saint-Esprit commence à travailler notre cœur, la Bible dit qu'il nous convainc de péché. Et ça, c'est une réalité. D'un seul coup, on découvre qu'on a en nous, au contraire de ce qu'on croyait avant, une espèce de fontaine de corruption, une espèce de fontaine de pourriture qui est là et qui fait qu'on est continuellement prêt à faire le mal, continuellement orienté dans cette direction-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène vraiment dans l'humilité, au pied du Seigneur pour implorer son pardon et sa grâce. Et c'est l'objectif, c'est que nous réalisions cela. Et moi, je me souviens bien du jour, c'est même plusieurs jours où j'ai réalisé cela, et combien j'ai réalisé, combien ma conscience coupable se courbait là, sous ce que la parole de Dieu disait, elle le reconnaissait, et combien je voyais la nécessité de venir au Sauveur crucifié pour être pardonné et libéré de cette terrible condamnation. Amen. Et c'est vrai, je crois que tous ceux même qui parmi nous ont pu voir le Seigneur se glorifier dans leur vie, qui ont pu voir la gloire de Dieu, eh bien par la même occasion, ils se sont vus eux-mêmes dans leur péché, ils se sont vus eux-mêmes dans leur misère, et certainement là encore aussi c'est une grande réalité. Lorsque le Saint-Esprit agit, qui nous parle, et alors en ce moment on réalise comme il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. C'est vrai, c'est la réalité, on le saisit, on le réalise. On croit à la chute, pourquoi ? Parce qu'on est nous-mêmes tombés. Hein ? On croit que le Seigneur nous a pas créés pour ça, c'est parce que dans nos cœurs, on a des désirs et des aspirations à monter plus haut que ça. On ne veut pas en rester dans cette situation. Nous croyons à la faiblesse de l'humanité tombée. Pourquoi ? Parce que nous sommes nous-mêmes sans force pour faire le bien que nous devrions faire, pour nous libérer des addictions que nous avons, pour nous libérer du mauvais caractère que nous avons. On n'arrive pas par nos propres moyens. Alors on réalise cela. Et la parole de Dieu nous dit cela, et nous reconnaissons cela, et puis nous sommes obligés de dire ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans notre propre vie. C'était la réalité. Heureusement, nous avons entendu aussi des choses plus réjouissantes. Nous avons entendu par exemple qu'il y a un appel de Dieu. Ah, ça c'est une chose. Il y a un appel de Dieu, un appel de Dieu pour tous les hommes en général, de manière globale. Et c'est vrai que l'appel de Dieu retentit, et par lequel Christ désire que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes viennent à lui. Mais nous avons découvert aussi qu'il y a un appel particulier par le Saint-Esprit, par lequel les hommes sont doucement attirés à Jésus. Et nous avons trouvé que c'était vrai, parce que nous avons été attirés comme cela. Le Seigneur, le Saint-Esprit, ne nous a pas attirés à Christ en nous traînant par les oreilles. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Hein. Mais il nous a amenés, est-il marqué, par des cordages d'amour. Hein. Et nous sommes venus à Jésus librement, avec le consentement d'une volonté renouvelée, sans que le Seigneur ne viole une seule des lois délicates de notre esprit pour nous faire venir dans ce chemin du salut. Amen. Et ainsi, nous avons non seulement entendu parler de l'appel de Dieu, mais nous l'avons vu. Amen. Vu dans nos vies, et nous pouvons en rendre témoignage aujourd'hui. Nous avons aussi entendu que si nous venions à Jésus tel que nous étions, il nous recevrait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est passé. Nous avons entendu qu'il nous pardonnerait de nos péchés et Nous avons vu qu'il nous a pardonné. Nous avons entendu qu'avec son pardon, il nous donnerait sa paix. Et effectivement, nous avons trouvé que c'était vrai. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, est-il écrit. Alléluia. Et nous avons entendu que des pécheurs misérables que nous étions, eh bien, recevaient cette joie inexprimable. Et nous avons reçu cette joie. Et nous témoignons que cet homme, Jésus-Christ, est celui qui reçoit les pécheurs. Et nous témoignons qu'il ne rejette aucun de ceux qui viennent véritablement à lui. Et nous vous déclarons que dans la plénitude de sa grâce, le Seigneur est celui qui transforme les rebelles du péché en enfants de paix. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Et le plus audacieux des prédicateurs de l'Évangile n'a jamais prêché plus que la réalité. Dans ce domaine, l'exagération est impossible pour décrire l'infinie grâce de Dieu envers ceux qui viennent à lui. Amen. Ensuite, nous avons entendu dire qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la régénération. Alors ça, nous avons entendu avec étonnement cette déclaration du Seigneur. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau, mais ça veut dire quoi ça? C'est incroyable une chose pareille. On nous a dit qu'il fallait passer de la mort à la vie, que les choses anciennes devaient passer, que toute chose devait être nouvelle. Nous l'avons écouté, mais à un moment, nous sommes allés plus loin et nous l'avons vu. Et plusieurs d'entre nous, et ce serait si merveilleux si c'était le cas, c'était pour chacun d'entre nous, plusieurs d'entre nous ont connu le grand changement radical, la grande métamorphose parce qu'ils l'ont expérimenté. Et aujourd'hui, ils peuvent dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Je suis sorti d'un monde de mort pour entrer dans un monde de vie. Je suis conscient qu'un nouveau cœur a été mis dans ma poitrine, une nouvelle vie coule dans mes membres. La nouvelle naissance, c'est un fait. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Amen. Et là encore, c'est vrai, là, pour moi, je considère comme un grand privilège. Un des plus grands privilèges du service de Dieu, c'est d'avoir vu tant de vies réellement transformées par la puissance de Dieu. Je ne dis pas toutes les personnes que je connais, mais pas seulement des guérisons miraculeuses, en grand nombre, hein, et de manière souvent extraordinaire, ça c'est déjà merveilleux. Pas seulement des délivrances de l'alcool, ou de la drogue, ou d'autres addictions, mais de vraies transformations de vie à la gloire de Dieu. Hein, c'est-à-dire des coléreux qui deviennent paisibles et patients, des dépressifs qui deviennent optimistes, qui deviennent pleins de foi, des égoïstes qui deviennent généreux, des égocentriques qui deviennent attentifs et ouverts aux autres, des rancuniers vindicatifs qui deviennent miséricordieux, des insensibles et endurcis qui deviennent compatissants, qui deviennent attentionnés, des caractères tristes et négatifs qui deviennent joyeux, des insatisfaits, impatients, mais qui deviennent contents de l'état où ils se trouvent, des susceptibles qui deviennent débonnaires, des orgueilleux qui deviennent humbles et aimants, et j'en passe. Et j'en passe. Et vous savez, derrière chacune de ces transformations dont j'ai parlé là, que j'ai citées en exemple, bien, je pourrais mettre un ou plusieurs visages que j'ai connus. Hein. C'est-à-dire chaque fois, eh bien, j'ai pu voir réellement que ce que j'ai entendu, je l'ai vu. Alléluia. Et de ce point de vue également, c'est aussi une merveilleuse réalité. Amen. Et puis on a aussi entendu parler du Saint-Esprit. Entendu parler du Saint-Esprit. Et là encore, lorsque nous entendions parler des opérations du Saint-Esprit, de ses manifestations, c'était pour nous, pour moi en tout cas, des mystères incompréhensibles. Pendant tout un temps, c'était comme ça. Comment Dieu, le Saint-Esprit, peut-il entrer dans un homme et faire de son corps son temple, est-il dit là? On entend parler qu'il convainc les hommes de péché, qu'il abat leur propre injustice, qu'il met l'espérance dans leur cœur, qu'il les conduit à Christ, qu'il les renouvelle tout entier, qu'il les réconforte, qu'il les sanctifie, qu'il les éclaire, qu'il les préserve de tout mal, qu'il les préserve de tout ennemi. On avait l'habitude peut-être de l'entendre. Mais aujourd'hui, c'est avec joie qu'on peut témoigner, en tout cas pour plusieurs d'entre nous, ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu de ce point de vue-là aussi. C'est vrai, le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, mais après il nous a amenés à la liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, Là est la liberté, alléluia, une liberté merveilleuse. Et nous avons été libérés de la tyrannie du péché. Amen, alléluia. Et depuis lors, ce Saint-Esprit béni continue à agir, continue à se glorifier, continue à nous faire faire vraiment des expériences. Vous savez, je reviens un petit peu sur cette expérience bénie que celle du baptême du Saint-Esprit. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Pour certains, ce baptême de puissance, c'est très marquant, c'est très impressionnant, au moment où ça se produit pour eux, pour la première fois, et alors ils peuvent dire en vérité, ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. Pour eux-mêmes, ils peuvent le dire, hein. D'autres n'ont pas fait forcément cette expérience aussi puissamment au départ, la première fois, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut plus saisir par la foi. Ça a été d'ailleurs mon expérience, mon cas par exemple, hein. Mais ensuite, quel soutien puissant pour la louange et l'adoration, hein. Quel précieux sésame pour entrer quelque part dans une espèce de nouvelle dimension, hein. C'est encore un bouclier protecteur efficace, surtout dans la lutte contre les puissances occultes, en particulier la prière de délivrance pour ceux qui sont liés par des démons, qui sont liés par les liens de l'adversaire. Un revêtement de puissance pour les chasser dans le nom du Seigneur, hein. Et en même temps, ce baptême du Saint-Esprit, c'est comme une clé d'or, quelque part, pour nous ouvrir une porte nouvelle du jardin de Dieu, hein, de ce jardin, et avoir accès au fruit de l'Esprit qui est là, dans tous ses aspects merveilleux. Et puis, bien sûr, aussi à la guérison, puisque en même temps que ce fruit, il y a aussi des feuilles qui servent à la guérison des nations. C'est vrai combien, par la plénitude du Saint-Esprit, on peut voir ainsi des guérisons, des délivrances et des miracles. De sorte que dans ce magnifique domaine aussi, il est possible pour ceux qui en sont baptisés du Saint-Esprit de dire « Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu ». Amen, amen, alléluia. Et il nous a, ce Saint-Esprit, continuellement ensuite consolé, guidé, dirigé dans toute la vérité. Il nous a remplis de la vie, de cet amour et de cette force qui vient d'en haut. Quelle influence merveilleuse. Et puis, je poursuis encore. On nous a dit aussi bien des fois que Dieu entend la prière. Nous avons entendu la parole du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez de cela, de cette parole du Seigneur? Est-ce que c'est qu'un amusement pieux, cette parole, ou bien est-ce que ça doit nous amener dans une réalité, dans la réalité? Est-ce que vous n'avez pas, j'espère, peut-être, beaucoup, chacun peut-être, prié soi-même du fond de l'obscurité où nous étions, jusqu'à ce que soyons amenés à la lumière de Dieu lorsqu'on a prié ainsi. Depuis ce grand cachot, cette grande prison de nos péchés, de cet éloignement de Dieu, pour nous amener jusqu'au sommet de cette montagne de la communion avec Dieu. Hein, c'est vrai, la toute-puissance de la prière. Et là encore, il y a des faits qui sont là et qui pourraient convaincre n'importe qui, à condition, bien sûr, qu'on soit décidé à se laisser convaincre. Vous avez des gens qui sont dignes de foi ici et qui pourraient venir ici témoigner, d'ailleurs il y en a qui le font de temps en temps, que bien des fois, Dieu a aussi distinctement entendu leur prière que s'il avait tendu la main vers eux en traversant le ciel. Hein, on peut dire cela. Et ce que nous avions entendu au sujet de la prière, nous l'avons vu. Alléluia. Hein. Et personne ne peut déloger cette foi de nos cœurs parce que nous la voyons toujours à nouveau confirmée par de nouvelles expériences. Amen. Et puis, septième chose encore. Nous avons entendu aussi que c'est un Dieu de providence qui dirige et qui commande les choses. Combien nous pouvons dire toujours et avec joie, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Nous croyons à la providence de Dieu, nous l'avons vu à l'œuvre, le temps nous manque ce matin pour parler de nos expériences aux uns et aux autres, mais en tout cas, pour ma part, je peux dire que Dieu a pourvu à le besoin d'une façon aussi admirable et régulière que lorsqu'il le faisait, rappelez-vous, pour le peuple d'Israël en donnant la manne dans le désert, jour par jour. Et c'est vrai que ça a été comme cela. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toutes choses ont concouru au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on peut aussi affirmer cela. Et plusieurs parmi nous pourraient se lever et dire les preuves certaines de ce que Dieu avait pourvu, pourvoyé ainsi dans leur vie. Nous avons entendu qu'il en était ainsi, c'est vrai. Et nous avons vu que la réalité suivait ce qu'on nous en a dit. Pour les choses du ciel, Dieu est plein de grâce et de gloire. Pour les choses de la terre aussi, le Seigneur est puissant pour pourvoir. Enfin, Enfin, notre dernier point, nous avons souvent entendu dire que ceux qui se confient au Seigneur ont une espérance solide à l'heure de leur mort. Eh oui, parce que c'est une réalité, cela. Hein. On l'a peut-être pas encore, on l'a pas encore vu nous-mêmes, puisqu'on n'a pas encore atteint ce dernier rivage. Mais nous l'avons vu chez d'autres. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de le voir chez d'autres. Hein. J'ai eu l'occasion de voir que lorsqu'un véritable croyant arrive à ce moment-là, je ne dis pas que c'est toujours facile, parce que vous avez des circonstances de mort qui sont certaines plus difficiles que d'autres, peut-être. Mais en tout cas, il y avait une paix qui était là. En tout cas, il y avait une paix profonde qui était là, et cette paix profonde, celle de ceux qui se préparent à entrer dans la présence de Dieu en étant en communion avec lui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande chose, c'est vrai, que de pouvoir arriver à cette dernière heure et de dire ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Je voudrais vous lire un petit témoignage encore, c'est la lettre d'un vieillard qu'il a écrit suite à une station de radio, il a écrit ça à une station de radio chrétienne aux États-Unis. Parce que le prédicateur de la station avait dit que le dimanche d'après, il parlerait sur le ciel. Voici donc ce que ce vieillard a écrit. Dimanche prochain, vous devez parler du ciel. Ce pays m'intéresse beaucoup car depuis plus de 55 ans, j'ai passé un acte qui me donne droit à un peu de propriété là-haut. Je ne l'ai pas acheté. Cela me fut donné sans argent, sans aucun prix. Mais le donateur m'en a fait l'acquisition moyennant un énorme sacrifice. Je ne garde pas ce bien pour en faire de la spéculation, puisque l'acte n'est pas transmissible. Ce n'est pas un terrain vague, car pendant plus d'un demi-siècle, j'ai envoyé des matériaux avec lesquels le grand architecte et entrepreneur de l'univers m'a construit une demeure qui n'aura jamais besoin d'être retouchée ou réparée, car elle me conviendra parfaitement, à moi personnellement, et qu'elle ne se détériorera jamais. Les termites ne saperont pas ses fondements, car ses fondements sont bâtis sur le rocher des âges. Le feu ne peut la brûler, les eaux ne peuvent ni la détruire ni la submerger. Il n'y a pas de serrure ou de verrou à ses portes, car aucun méchant n'habitera le pays où j'ai ma demeure. Elle est presque achevée maintenant, prête à m'accueillir pour que j'y vive en paix éternellement, sans aucune crainte d'en être jamais chassé. Il existe une vallée aux ombres profondes entre l'endroit où j'habite et le pays pour lequel je vais bientôt partir. Je ne peux pas atteindre ma demeure dans cette cité d'or sans traverser la vallée aux ombres profondes. Mais je n'ai pas peur, car mon ami, le meilleur que j'ai jamais eu, a traversé cette vallée. Il y a très très longtemps, il en a chassé toutes les ténèbres. Il s'est toujours tenu à mes côtés dans les bons et dans les mauvais jours, depuis le moment où nous nous sommes connus, il y a 55 ans. Et j'ai sa promesse par écrit qu'il ne m'abandonnera jamais, et que jamais il ne me délaissera. Il sera avec moi tandis que je marcherai dans la vallée des ombres, et s'il vient avec moi, je ne m'égarerai pas de mon chemin. J'espère entendre votre sermon sur le ciel dimanche prochain, de ma maison. Mais je ne suis pas absolument sûr de pouvoir le faire. Mon billet pour le ciel ne porte aucune date pour le voyage. Il n'a ni retour, ni bulletin pour les bagages. Oui, je suis prêt à partir. Il se peut que je ne sois plus ici dimanche prochain pour vous entendre. Mais nous nous verrons là-haut, un jour. Une assurance puissante, précieuse, dans le cœur. Encore une petite anecdote à ce sujet. On lit à Philadelphie, aux États-Unis, sur une modeste tombe, l'épitaphe suivante. Le corps de Benjamin Franklin, imprimeur, semblable à la reliure d'un vieux livre dont l'intérieur a été enlevé, dont l'adresse et l'inscription sont effacées, repose ici en pâture au vert. Mais l'ouvrage ne sera pas détruit, car selon sa conviction, il doit reparaître en une nouvelle et belle édition, revue et corrigée par son auteur. Et c'est une image, hein, une belle image. Voilà mes amis, mes frères et sœurs. Alors en conséquence de tout cela, eh bien voici la nécessité d'écouter avec attention les bons témoins que sont la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui ont fait de réelles expériences avec Dieu. Écouter de la bonne façon, en examinant les faits, et puis en obéissant aux commandements, en entrant dans la vie nouvelle, en expérimentant les choses, hein, en s'engageant ainsi pleinement. Et puis, c'est vrai, en considérant combien ces choses sont importantes, combien elles sont primordiales, combien elles sont excellentes pour nous, pour que chacun d'entre nous puisse aussi arriver, pour sa propre part, à cette conclusion. Ce que nous avons entendu, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci pour ton œuvre. Et merci Seigneur parce que tu es vraiment celui qui veut nous amener du point de spectateur à celui d'acteur. Tu veux nous amener du point de simple auditeur au point de personnes qui prennent ta parole et qui la mettent en œuvre dans leur vie. Merci Seigneur parce que tu veux vraiment nous amener du point de ceux qui entendent des choses admirables, au point de ceux qui les expérimentent dans leur existence maintenant même, dès aujourd'hui et dans la suite. Nous te remercions Seigneur parce que c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses dont nous pourrions dire ce que nous avions entendu, nous l'avons vu. La parole de Dieu s'est vérifiée à chaque fois exactement dans ce qu'elle disait. Nous l'avons expérimenté. Et ça veut dire aussi que tu veux nous emmener plus loin et que tu veux nous emmener à réaliser toutes les belles expériences que tu veux pour nous. Merci Seigneur, sois béni, sois glorifié. Amen, alléluia. Quand nous restons dans le recueillement, y a-t-il parmi nous justement certains qui se disent, eh bien oui Seigneur, voilà, dans ces domaines qui ont été cités, il y a quelque chose là de particulier. Vous le savez dans votre cœur, vous le savez dans votre conscience. Il y a quelque chose de particulier, Seigneur, je ne veux pas seulement en avoir entendu parler, mais je veux le voir, je veux l'expérimenter et je veux m'y engager. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur à ta place et prie dans ton cœur le Seigneur. Et puis dis-lui, Seigneur, voilà, maintenant tu vois, il y a telle chose qui m'a spécialement touché dans cette prédication, dans ta parole, Seigneur. Il y a telle chose, Seigneur, je vois, il faut que je puisse aller plus loin. Il faut que je puisse vraiment saisir cela. Il faut que je puisse vraiment non seulement l'entendre parler, non seulement le voir autour de moi, mais l'expérimenter dans ma propre existence. Alléluia! Alléluia. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui sont là, ces bien-aimés qui se lèvent. Tu vois où chacun en est, Seigneur. Moi qui ne suis qu'un homme, je ne vois pas grand-chose, je vois juste des gens qui sont debout. Mais toi, Seigneur, tu vois chaque cœur. Toi, tu vois chacune de ces vies, chacune de ces âmes, Seigneur. Et je te remercie parce que tu veux vraiment les bénir et leur faire faire ces expériences personnellement, qu'ils puissent encore se saisir de toi, se saisir de ta parole, se saisir de ta promesse, l'appliquer à leur situation, l'appliquer à leur état, Seigneur, et puis qu'ils puissent recevoir de toi la grâce, la révélation de ce que tu veux leur accorder. Dans ton grand nom, mon Seigneur et mon Roi, nous te glorifions et te bénissons. Amen, amen, alléluia, amen Seigneur, amen, alléluia. Voilà, nous avons plusieurs annonces, d'abord la réunion de prière, donc mercredi, je vous le rappelle, c'est à 20h15 ici. Les questions et réponses bibliques, ceux qui ont des questions bibliques, on peut se retrouver le vendredi à 19h15, et la réunion d'évangélisation a lieu dans la foulée à 20h15 le même jour. L'évangélisation dans les villages, rendez-vous samedi ici à 14h30 pour y participer. Et je rappelle que les enfants d'âge primaire doivent porter tous un masque aux réunions maintenant. Dans les prochains temps, ça va être un peu comme ça. Je ne sais pas que ça m'amuse spécialement, mais voilà. Donc, c'est une précaution qu'il faut qu'on prenne. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous soutienne et vous fortifie.